Vous êtes sur RTL.
12h30. RTL.
Voilà, j'ai dormi avec un crocodile que j'avais récupéré tout petit parce que des gens s'en défaisaient. Ils venaient dormir avec moi de temps en temps. C'était plus chaud dans mon lit que sur le parquet. Il n'y avait rien d'affectif dans tout ça.
Le journal inattendu.
Pendant très longtemps, on a considéré que l'homme était supérieur et que l'animal ne pouvait pas réagir comme l'homme. Or, on découvre que finalement, l'animal fait l'amour, pas seulement pour pérenniser l'espèce, mais pour le plaisir du sexe. On voit que l'animal est capable de tricher, de mentir, d'éprouver des sensations qui sont propres aux humains.
Alain Beaugrain-Dubourg est expulsé violemment.
Tu dégages de là ?
D'autres personnes arrivent, dont cet homme muni d'une pelle. Les militants LPO sont pris pour cible, les journalistes aussi. Notre caméra nous est arrachée, les pneus des voitures crevés.
Les lémuriens qui m'entourent, et pourtant vous le constatez, ils sont là, bien présents, premiers ambassadeurs. Ouille !
Le journal inattendu d'Alain Beaugrain-Dubourg avec Vincent Parisot sur RTL.
Oui, prends garde à toi. Bonjour Alain Beaugrain-Dubourg.
Bonjour Vincent Parisot.
À distance, donc, pour ce journal inattendu. Merci d'être pour une heure aux commandes. Pour votre dernier livre, qui était sorti le 13 mars, mais c'est vrai qu'il attendait lui aussi avec impatience, je crois, la réouverture des librairies et le déconfinement. On a marché sur la terre, journal d'un militant, votre journal au jour le jour, sur une année, qui nous montre au passage que votre vie est quasiment entièrement consacrée à ce combat pour la planète, la biodiversité, la protection, le bien-être animal. On va donc feuilleter votre journal, mais aussi le roman de votre vie, des premières émissions de télé à la présidence de la Ligue de protection des oiseaux. Une vie de militant, donc, faite de rencontres, comme par exemple celle de Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre qui nous a si bien parlé de la résilience. Engagé lui aussi pour la protection de la nature, pour les animaux, il sera votre invité après 13h. Évidemment, il y aura des surprises, mais tout d'abord, c'est la tradition, même à distance, Alain Beaugrain-Dubourg, il faut vous tirer le portrait. Tiens, je vous propose même un peu de musique pour vous accompagner.
Dans Out of Africa, Karen Blixen s'interroge. Peut-être que la Terre est ronde pour que nous ne puissions pas voir trop loin notre route. Contrairement à elle, dès l'enfance, j'ai voulu percevoir l'exotisme au-delà de l'horizon. Depuis l'île de Ré qui m'a vu grandir, je souhaitais rencontrer le lion des savanes, l'ours de la banquise, le panda des bambouserais ou le dauphin du Pacifique. Pendant plus de 30 ans, la télévision m'a offert ce privilège. Dans le même temps, j'ai découvert la fragilité de nos voisins de planète, les animaux, la violence aussi dont ils étaient victimes. Difficile de rester indifférent. Alors au-delà de l'indignation, il fallait agir, c'est pourquoi je me suis investi dans la protection de la nature et des animaux, tout particulièrement à la LPO qui compte aujourd'hui plus de 57 000 membres et 400 salariés. Je suis également membre du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil national de la transition écologique. Je suis aussi conférencier, administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et je suis d'une nature conviviale. Je considère que la convivialité n'est pas un luxe, mais une richesse.
Ah bah on va en profiter de cette convivialité. En tout cas, on a bien compris que votre vie, elle est au service de cette cause, des animaux, bien sûr, de la biodiversité.
Par conséquent, de l'humanité.
Oui, bien sûr.
Au final, oui.
On va en parler, d'ailleurs, et avec vous, et puis tout à l'heure, avec votre invité, à partir de 13h, Boris Cyrulnik. Ce que je vous propose, Alain Beaugrain-Dubourg, c'est de commencer par les infos, l'actualité de ce samedi 9 mai, l'actualité l'actualité, c'est évidemment la perspective d'après-demain. À l'avant-dernier jour du confinement, eh bien, les rappels au respect des gestes barrières se multiplient. Le préfet de Dordogne appelle à la vigilance parce que dans ce département qui est en vert sur la carte, un nouveau foyer a émergé après un enterrement le 24 avril. Au moins 8 cas positifs ont été détectés et isolés. C'est l'illustration de ce qu'on ne veut pas, dit le préfet. Partout en France, le déconfinement se prépare, dans les transports en commun notamment, où le masque sera obligatoire partout en France. L'inquiétude est plus vive en région parisienne. Aux heures de pointe, les voyageurs devront présenter une attestation de leur employeur. Masque obligatoire également à bord des avions d'Air France avec prise de température systématique au départ. À plus de 38 degrés, eh bien le voyageur ne pourra pas embarquer. J-2 également pour les commerces non alimentaires qui s'apprêtent à ouvrir avec de nombreuses contraintes pour l'accueil des clients et la protection des salariés. Et puis autre crainte pour le déconfinement, c'est la reprise de la mortalité routière qui a baissé de 40% en mars par rapport à l'année dernière. Eh bien la sécurité routière en a profité pour lancer dès lundi une campagne de sensibilisation. Et puis dans la recherche de l'origine de l'épidémie, eh bien les indices se multiplient autour des Jeux militaires de Wuhan en octobre. Des athlètes témoignent en Espagne, en Italie et en France. Et on apprend d'ailleurs que les bagages des sportifs tricolores avaient transité par la base militaire de Creil, foyer du coronavirus justement au début de l'épidémie. Le temps, Valérie Quintin, votre météo est orageuse.
Oui, bah ça commence à changer un petit peu, c'est vrai. Alors pour l'heure, on a un peu moins d'orages que prévu, mais ils vont se réactiver en fin de journée, notamment dans le sud-ouest. On a quand même des passages nuageux assez denses sur la moitié nord, excepté sur l'extrême nord. Le Pas-de-Calais, le département du Nord ainsi que le Cotentin devraient profiter d'éclaircies toute la journée. Sinon, le soleil, on va surtout le trouver dans l'est et dans le sud, avec des températures très douces. 22 degrés attendus à Toulon, 25 à Paris, à Tours, à Épinal, 26 degrés pour Lyon, 27 à Clermont-Ferrand, maximum 28 degrés à Mont-de-Marsan.
Merci Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
À l'heure où la France prépare son déconfinement pour après-demain, eh bien les inquiétudes, les mises en garde se multiplient, notamment d'ailleurs à la vue de ce qui se passe en Allemagne, où le nombre de contaminations est reparti à la hausse. Des villes ou des cantons pourraient ainsi être reconfinés dans les prochains jours. Et c'est donc dans ce contexte qu'en Dordogne, un département classé vert sur la carte, un nouveau foyer de coronavirus a été détecté. À l'origine, des obsèques célébrées le 24 avril à Verst, une petite commune du sud de Périgueux. Il y avait 20 personnes à la cérémonie religieuse, mais beaucoup plus, semble-t-il, au cimetière et à la réunion familiale qui a suivi. Résultat, au moins 8 cas positifs pour le préfet de Dordogne. C'est l'illustration de ce qu'il faut éviter. Jean-Marc Terrier.
Oui, le maire de cette commune de 500 habitants avait autorisé l'inhumation. La famille du défunt, d'origine portugaise, résidant au village. Une vingtaine de personnes devaient donc normalement assister aux obsèques de cet homme de 51 ans le 24 avril dernier. Mais finalement, au funérarium et au cimetière, ce sont près de 100 personnes qui se sont rassemblées. Des proches étant arrivés de Suisse et du Portugal, une situation ingérable qu'a pu observer Jackie. Il réside sur la commune depuis près de 20 ans.
La personne qui est décédée avait de nombreux frères et sœurs en Dordogne. Les consignes n'ont pas été appliquées. Alors, pourquoi? On ne sait pas. Les pompes funèbres ont rappelé quand même les règles. Hein. Les gestes barrières n'ont pas été respectés. Hein. C'était les accolades, les embrassades, voilà.
C'est le médecin de famille qui a signalé les premiers cas de suspicion à l'ARS. L'Agence régionale de santé a aussitôt entamé une série de dépistages. Sur les 40 premiers résultats, 8 cas se sont révélés positifs. Ils concernent l'entourage proche. 63 résultats sont en attente. L'Agence régionale de santé ayant jusqu'à présent dépisté 103 contacts potentiel.
Jean-Marc Terrier. Lundi, donc, plus de 400 000 entreprises de commerce vont pouvoir rouvrir. 77 000 salons de coiffure, 3 400 librairies où on pourra donc trouver, évidemment, On a marché sur la terre, le livre d'Alain Bougrain-Dubourg. 33 000 boutiques de vêtements, 15 000 fleuristes. La vie sociale et économique va donc pouvoir reprendre, mais sous certaines conditions, évidemment. Le protocole national de déconfinement et le guide du commerce de détail ont fixé les règles. Et Sonia, qui tient une boutique de chaussures depuis 25 ans dans le centre-ville de Lyon, après 2 mois d'arrêt, vous imaginez son impatience. En tout cas, elle le dit, elle est prête.
On remet en route le magasin, tout simplement. On refait nos vitrines, on a nettoyé nos vitres. On a révisé nos modèles, nos prix. Il y aura forcément un protocole, maximum 3 personnes dans ma boutique. Je conseille aux gens d'avoir un masque. Ben, on va se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. On va protéger tout ce qui est susceptible d'être touché. Et puis, ben, on va tester, on va voir. Et puis, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Les gens ont bien compris ce que c'était que le protocole. Il est évident que si j'ai un groupe de 10 personnes qui veut rentrer, c'est non. Bon, je sais pas si on va exploser, mais c'est pas grave. Il faut que ça se fasse tranquillement, il faut qu'on reprenne confiance et puis qu'on continue.
Voilà, reprendre confiance, continuer. Sonia, donc, qui tient cette boutique de chaussures, elle était au micro RTL, Denisa Emani. Mesures de précaution dans les commerces, également dans les transports en commun, bien sûr. Et ce lundi s'annonce à haut risque, particulièrement en Île-de-France, malgré les incitations à poursuivre le télétravail en raison de la crainte de l'afflux de voyageurs. Il faudra présenter une attestation de l'employeur aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 le matin, entre 16h et 19h l'après-midi. 75% du trafic RATP sera assuré. 50% pour la SNCF. Dans le métro, une soixantaine de stations seront fermées, mais avec la distanciation physique imposée, seulement 15%. Seulement 15% des usagers habituels pourront prendre place dans les rames. En Île-de-France, comme partout ailleurs, dans les transports, d'ailleurs, le port du masque sera obligatoire sous peine d'une amende de 135 euros. Et puis l'inquiétude se porte aussi sur les routes, car de nombreux salariés préféreront prendre la voiture que les transports. Du coup, bouchons à craindre, reprise des accidents en perspective. La mortalité routière a baissé de 40% en mars par rapport au même mois de 2019. Donc les contrôles vont être renforcés à partir de lundi et la sécurité routière lancera après-demain une campagne de communication avec ce slogan « Ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route ». Avant de marquer une pause, Alain Bougrain-Dubourg, dites-nous tout d'abord où vous êtes confiné. Vous êtes confiné à Paris ?
Oui, je suis à Paris. Oui, avec un regard vers l'île de Ré que j'aime bien.
Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas être parti à l'île de Ré d'ailleurs ?
Je vais être très franc avec vous parce que je ne savais pas si j'étais porteur et je ne voulais pas risquer d'apporter un virus dans l'île de Ré qui par bonheur semble protégé. Mais c'est une occasion de vous parler des plages et de la réouverture des plages. J'ai eu Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, juste avant l'émission, parce que j'avais demandé avec d'autres que, avant d'ouvrir les plages, on fasse un état des lieux de loin en loin, pour voir, au fond, comment se comportaient les dunes, la colonisation végétale, les laisses de mer, les oiseaux qui vont nidifier, le gravelot à collier interrompu qui nidifie sur la plage, et que tout le monde se précipite pas avec les chiens, etc., brutalement, sans qu'on fasse un état des lieux. Vous savez, c'est Jean Rostand qui disait « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ». Bien, on a subi le confinement, je voudrais qu'on sache, pour enrichir les connaissances, ce qui se passe sur le littoral, et Emmanuel Wargon m'a assuré qu'avec les préfectures, sans alourdir les contraintes du déconfinement, on allait faire un état des lieux. J'en suis ravi.
La faune, de la flore, avant éventuellement que des dérogations soient accordées, si j'ai bien compris.
Voilà, dans les lieux les plus sensibles.
On marque une pause dans votre journal inattendu, Alain Bougrain-Dubourg, et puis dans un instant, on parle de ce faisceau d'indices autour du début de l'épidémie lors des Jeux mondiaux militaires de Wuhan fin octobre. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Alain Bougrain-Dubourg avec Vincent Parisot sur RTL.
Et donc dans la recherche des origines de la pandémie de Covid-19, les soupçons se multiplient comme les témoignages autour des Jeux militaires mondiaux qui avaient été organisés à Wuhan, épicentre de l'épidémie, à la fin du mois d'octobre dernier. Vous avez peut-être déjà entendu la pentathlète française Élodie Clouvel assurer qu'elle l'avait très vraisemblablement attrapée, tout comme son conjoint lorsqu'elle était sur place. Des athlètes espagnols, italiens ont fait des déclarations similaires. Et voilà qu'on apprend maintenant que les bagages des sportifs français avait transité par la base militaire de Creil, dans l'Oise, où le virus, on le sait, a circulé très tôt, Philippe Sanfourche.
Oui, un nouvel élément qui braque un peu plus les projecteurs sur ces Jeux militaires de Wuhan, avec toujours autant d'interrogations et peu de réponses, car si, selon nos confrères du Parisien, le fret de la délégation française a bien transité par la base aérienne de Creil, dans l'Oise, un des foyers de départ de l'épidémie en France, c'était en date du 6 novembre, soit 3 mois et demi avant le premier cas avéré, le 25 février, sur cette même base aérienne. Les services de communication de l'armée font par ailleurs savoir qu'aucun des 6 militaires ayant réceptionné ce matériel n'a ensuite présenté de symptômes de la maladie. Au sein des athlètes, si plusieurs témoignages, dont celui d'Élodie Clouvel, a posteriori, ont fait état de symptômes troublants, le service de santé des armées rappelle qu'il n'a enregistré aucun cas de maladie au retour de Wuhan, raison pour laquelle l'armée n'a pas diligenté ensuite un dépistage massif au sein de la délégation.
Philippe s'enfourche et puis les marins sont sur le pont. Hein, l'Atlantique leur ouvre les bras, encore un petit peu de patience, mais la préfecture maritime de l'Atlantique a confirmé dans un communiqué que la navigation sera à nouveau autorisée dès lundi, mais elle rappelle au passage que dans les ports comme en mer, les gestes barrières, la distanciation sociale reste la règle. Pour les plages, on en a parlé à l'instant avec vous, Alain Bougrain-Dubourg, et vous nous avez souligné qu'un état des lieux de la faune et de la flore sera réalisé avant qu'éventuellement certaines dérogations soient accordées pour des plages, pour l'ouverture des plages. La règle, pour l'instant, c'est qu'elle reste fermée, mais on sait que des demandes de dérogation ont été faites déjà en Loire-Atlantique et puis en Vendée. Et puis, je voudrais aussi parler de ce bilan positif pour la dérogation gouvernementale qui avait été accordée pour les adoptions dans les refuges de la SPA au nom du bien-être animal. Plus de 650 chiens et chats ont trouvé de nouveaux maîtres après avoir été choisis en photo ou en vidéo sur Internet. Il faut dire qu'il y a eu plus de 10 000 demandes, donc ça veut dire que plus de 90% ont été rejetés. Il fallait suivre une procédure très stricte. Les 62 refuges de la SPA ont pu être désengorgés et accueillir de nouveaux arrivants. Alors maintenant, il y a une inquiétude exprimée notamment par la Fondation Brigitte Bardot, qui estime que les animaux, notamment les chiens habitués à en vivre en permanence avec leur maître depuis 2 mois, risquent de poser des problèmes lorsqu'ils vont être de nouveau livrés à eux-mêmes. Cela pourrait provoquer une nouvelle vague d'abandon. Alain Bougrain-Dubourg, c'est possible ça, le coup de blouse du chien à partir de lundi lorsque son maître va repartir?
Ah oui, il n'y a aucun doute. L'école vétérinaire de Maison-Alfort, du reste, nous alerte depuis un moment, tant aussi bien pour le chat que pour le chien. On va dire que la promiscuité heureuse, parce que ça a comblé un vide pour ces animaux qui ont un besoin de relations sociales, eh bien, elle va connaître une rupture violente et il peut y avoir des réactions de la part des animaux qui vont aboyer, peut-être faire des dégradations, que sais-je, mais qui vont être stressés, qui vont mal le vivre. Et du reste, on avait engagé à commencer à prendre un peu de distance avec ces animaux pour perdre les bonnes habitudes, malheureusement, afin que ils retrouvent un peu la période d'isolement, mais ils vont en souffrir. J'espère que ça n'ira pas jusqu'aux abandons quand même, parce que c'est une communion merveilleuse entre l'homme et l'animal. Et s'il y a des couples humains qui se déchirent, tant mieux, il y a des couples hommes-animaux qui
se retrouve, qui compense. Puisqu'on en est à parler des animaux, j'aimerais évoquer avec vous, avant qu'on parle de votre livre, bien sûr, ce virus, les origines de la pandémie. Il y a un chercheur qui coordonne un projet de recherche, d'ailleurs, sur les origines, qui explique que l'origine sauvage ne fait plus de doute. Hein. D'ailleurs, lui, il s'est longuement exprimé à l'Agence France Presse, il soupçonne plutôt la civette que le pangolin. Mais il dit ça, il dit qu'il y a évidemment un lien entre le débordement de l'humain sur la vie sauvage, la manière dont on interagit avec la nature et l'émergence des pathogènes et de ce virus. On voit clairement des liens entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Vous en êtes persuadé aussi, vous, qu'on n'a pas respecté la barrière avec les animaux sauvages ?
Oui, aujourd'hui c'est avéré, malheureusement. Du reste, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité vient de faire un travail admirable de synthèse qui nous éclaire, ainsi que l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais cette fois-ci adapté à la biodiversité. Et tout cela nous indique que nos rapports, j'ai envie de dire, de violence à l'égard du vivant qui nous entoure, conduit inévitablement à ce genre de choses. Et permettez-moi de dire qu'on est tous en train de se demander comment on va envisager le jour d'après, est-ce qu'on va tenir compte, mais pas une seconde, on se dit, est-ce qu'on met enfin terme à ces marchés fantômes, ces marchés de la mort, de la viande de brousse, ces bouillons de culture de virus qui reposent sur la douleur et la souffrance du monde animal. Il faut en finir dans le monde entier, les gouvernements peuvent prendre des mesures. J'ai filmé au cours de mes émissions à Taïwan, en Chine, au Bénin, au Cameroun, en Amérique du Sud, ces espèces de marchés, mais surréalistes, tant qu'ils existeront, on risque des pandémies comme celle que l'on a connue. De même, du reste, c'est avéré que pour des élevages intensifs qui ne respectent pas des bonnes conditions sanitaires. Et sans être trop long, permettez-moi d'ajouter qu'en théorie, on devait avoir 20 lieux d'accueil en France. Ça remonte déjà au Grenelle de l'environnement après la loi de biodiversité en 2016. Et eh bien, il y a tout juste, et encore je suis même pas sûr qu'il soit ouvert, un centre d'accueil pour les animaux saisis en douane à Roissy, alors qu'on doit en avoir à Mayotte, on doit en avoir à Bordeaux, à Marseille, à Orly, etc. Rien n'est fait. Et donc, des animaux saisis en douane ou qui s'échappent, comme ça a souvent été le cas, peuvent véhiculer ce genre de pandémie.
Vous évoquiez cette phrase que vous citez d'ailleurs dès le début de votre livre « On a marché sur la Terre », cette phrase du biologiste Jean Rostand. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. On peut dire qu'en cette période, ça résonne, ça.
Oui, moi j'ai eu la chance, j'étais gamin, de l'avoir connu, et ce grand sage, ce maître de la biologie, avait un regard tout aussi affirmé de passion et de respect à l'égard de l'homme comme de l'animal. Il voulait sans cesse conjuguer la vie, voilà, les êtres vivants quels qu'ils soient, et il considérait que on n'avait pas à mettre sous le tapis tout ce qui nous dérangeait, notamment dans le domaine du vivant.
Alain Bougrain-Dubourg, il est aux commandes de ce journal inattendu. On a marché sur la Terre, le journal d'un militant aux éditions Les Échappés. Vous pourrez le trouver dès lundi parce que votre librairie va sans doute rouvrir. Il est avec nous et on le retrouve dans un instant. À tout de suite.
Aujourd'hui plus... Le journal inattendu sur RTL. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir.
Le lion est mort ce soir. Par les Kids United, hein, ce sont des enfants, des ados qui chantent pour l'UNICEF. Vous avez choisi ce titre, Le lion est mort ce soir, Alain Bougrain-Dubourg. Le lion, le roi des animaux, évidemment. C'est vrai que l'espèce pourrait disparaître d'ici 2050.
Elle a connu un déclin, mais dramatique, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que, au fond, l'homme a gagné du terrain sur le territoire des bêtes, que ce soit les éléphants, les crocodiles ou les lions, et par conséquent, les lions ont été braconnés, chassés, tués, et puis il a été également victime de pathologies propres aux félins qui a affecté énormément l'espèce. Mais on peut dire que l'essentiel, c'est que on réduit complètement, on confine au fond le monde animal, parce que l'homme s'étend, et il faudra bien qu'on pose cette question. Cousteau l'avait fait quand même avec un certain courage, une question pas facile. Jusqu'à quand l'homme va se reproduire sur la planète en occupant les espaces et finalement en prélevant les ressources naturelles? On sait bien que quasiment au mois de mai, eh bien, on a déjà dépassé le crédit du potentiel des ressources qui sont à notre disposition par les services rendus par la nature. Donc ça n'est pas durable. C'est pas une question simple, mais on ne peut pas continuer à vivre de cette manière. Nicolas Hulot disait très justement, il faut changer le libre-échange en juste échange. Voilà, il faut revisiter un peu les
vous signez dès demain, Alain Bougrain-Dubourg, les appels. Alors vous citez celui de Nicolas Hulot, il y en a d'autres, les appels à redémarrer autrement, et notamment de manière plus exigeante vis-à-vis de notre environnement.
Oui, évidemment. Alors, d'une certaine manière, il faut se réjouir de voir que toutes les grandes signatures, les belles consciences, prennent la plume pour porter un message de résilience, de recul, de respect, etc. J'espère que à trop embrasser, mal étreint, je sais jamais comment ça marche la formule, mais est-ce qu'on n'en fait pas des kilos? Est-ce que on va repenser notre modèle de développement en revenant tout simplement à l'essentiel? C'est ça la question qui nous est posée. Alors, ça génère a priori des sacrifices exercice un peu déplaisant, mais je crois aussi que ça peut conduire à des bonheurs qu'on ne soupçonnait pas. Vous savez, on a lancé, c'est un exemple, hein, bien sûr, très. Je sais qu'il y a les questions économiques et tant de gens qui souffrent dans leur manque de moyens, mais on a lancé l'opération Confinée mais aux aguets. Il suffisait pour les gens de regarder par la fenêtre ou dans leur jardin s'ils voyaient des oiseaux, ils nous faisaient un retour, une opération montée LPO, Muséum d'Histoire Naturelle. Vincent Parisot, on a eu 900 000 oiseaux identifiés qui nous sont revenus par les réseaux sociaux. C'est colossal. Il y a eu un engouement. Eh bien voilà, le confinement a permis de porter un regard au-delà de la fenêtre sur le vivant qui nous entoure. Il y a des richesses à prendre et qui coûtent pas cher.
Alors ça me permet d'en profiter pour rappeler que vous êtes président de la Ligue pour la protection des oiseaux, administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, membre du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil national de la transition écologique. La première chose qui apparaît dans votre livre, On a marché sur la terre, journal d'un militant, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps pour autre chose que pour vos convictions. C'est votre pain quotidien.
Oui, mais c'est un bonheur. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Marcel Blechstein-Blanchet, j'avais 18-20 ans, d'être encouragé, et Jean Rostand du reste à l'époque, et j'ai été nommé lauréat de la Fondation de la Vocation. Et ça m'a donné confiance en moi pour un rêve que je n'imaginais pas vivre avec le monde du vivant, avec ce sauvage, découvrir la planète. Et après, bah, j'ai vu combien elle était fragile et par conséquent, je me suis tout légitimement engagé. Et ça participe de mon bonheur que cet engagement, avec des moments douloureux, quand je fais des bras de fer avec le ministère de la transition écologique, des attitudes scandaleuses sur le thème de la chasse, c'est pas drôle.
On vous sent d'ailleurs parfois déçu, amer, même je dirais parfois méprisant à l'égard des élus, des ministres qui parlent beaucoup et qui parlent peut-être trop par rapport à leurs actes.
Oui, incontestablement, le discours, la biodiversité est notre priorité, elle se conjugue avec le climat, que sais-je. Et quand on voit que dans le même temps, l'Europe demande qu'on arrête de tirer les tourterelles des bois qui ont perdu 80% de leur population, je rappelle quand même qu'elles ont été allègrement braconnées pendant 20 ans dans le Médoc, 80%, et que répond la France ? Ah ben on va quand même en tirer. Moi ça me scandalise. Et je suis d'autant plus désolé que les gens, pour ne pas les citer, Elisabeth Borne en l'occurrence et Emmanuelle Wargon, sont vraiment deux femmes dont je crois qu'elles sont honnêtes et très engagées dans les questions qui nous animent. Mais peut-être que c'est beaucoup plus haut à l'Élysée qu'Emmanuel Macron considère que pour garder la ruralité, il faut sortir satisfaire les porteurs de fusils. Ben non, c'est une fausse analyse, mauvaise analyse.
En tout cas, avec ce livre, on vit au rythme de cette année 2019, des événements qui l'ont marqué, la tempête Miguel, le naufrage du Grand América, et puis tous vos rendez-vous avec des associations, des institutions, mais quand même, à la fin du livre, il y a un regret exprimé, regret d'avoir couru après les événements. Écoutez, vous dites un lever de soleil, l'odeur des cèpes dans la forêt après l'orage, la fraîcheur d'un arbre, les premières gouttes d'un grain, le silence d'une présence aimée et le murmure d'une absence pesante. C'est aussi cela vers quoi maintenant vous voulez vous attarder ?
Je crois que j'ai toujours vécu avec les sens en éveil. Simplement, on les affirme pas souvent et parfois c'est la parole un peu virulente qui l'emporte sur la sensibilité. Mais voyez, réapprendre à toucher, caresser, écouter, sentir, respirer, goûter, tous ces sens qui sont gratuits pour chacun d'entre nous, il faut en user. Et je crois que le confinement peut-être nous a amené à réfléchir à cette idée, on va devenir plus riche en réutilisant nos sens.
Ah bah ça y est, c'est parfait pour, j'allais dire, introduire votre prochain invité. Il sera avec nous dans un instant, Boris Cyrulnik. RTL, il est 13h. On rappelle l'actualité, évidemment, de ce samedi 9 mai. L'actualité, c'est l'avant-dernier jour du confinement avec des rappels au respect des gestes barrières qui se multiplient. Le préfet de Dordogne appelle à la vigilance parce que dans ce département en vert, un nouveau foyer de coronavirus a émergé après un enterrement le 24 avril dernier. Au moins 8 cas positifs ont été détectés et isolés. C'est l'illustration de ce qu'on ne veut pas, dit le préfet. En tout cas, partout en France, le déconfinement se prépare, dans les transports en commun notamment, où le masque sera obligatoire sur tout le territoire. L'inquiétude est d'ailleurs vive en Île-de-France. Aux heures de pointe, les voyageurs devront présenter une attestation de leur employeur. Masque obligatoire également à bord des avions d'Air France à partir de lundi. La prise de température sera systématique au départ et à plus de 38 degrés, eh bien le voyageur ne pourra pas embarquer. J-2 également pour les commerces non alimentaires qui s'apprêtent à ouvrir avec de nombreuses contraintes pour l'accueil des clients et la protection des salariés. Et puis, autre crainte de ce déconfinement à partir de lundi, la reprise de la mortalité routière qui a baissé de 40% au mois de mars dernier par rapport à mars 2019. La sécurité routière a donc décidé de lancer pour lundi une campagne de sensibilisation. Et puis, dans la recherche de l'origine de l'épidémie, les indices se multiplient autour des Jeux militaires de Wuhan en octobre dernier. Des athlètes témoignent en France, donc, mais aussi en Espagne et en Italie. Et on apprend que les bagages des sportifs tricolores avaient transité par la base de Creil, un foyer du coronavirus au début de l'épidémie. Une météo orageuse quasiment partout en France cet après-midi et ce soir. Attention, des orages violents d'ailleurs sont à craindre en Aquitaine et en Poitou-Charentes notamment. A contrario, des éclaircies assez belles vont se maintenir du Jura à la Méditerranée, en Auvergne, mais aussi de la pointe bretonne au Pas-de-Calais. Les températures de 17 à 28 degrés de Cherbourg à Mont-de-Marsan. Il fera 22 à Toulon, 23 à Carcassonne comme à Rouen, 24 à Tours comme à Saint-Tropez, 25 à Paris comme à Annecy, Nevers et Metz, 26 à Bayonne, 27 à Lyon et 28 le maximum à Mimizan.
Le journal inattendu d'Alain Bougrain-Dubourg avec Vincent Parisot sur RTL.
Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ?
La corrida de Francis Cabrel, l'un de vos choix musicaux, Alain Bougrain-Dubourg. Est-ce que ce monde est sérieux ?
Oui, je peux pas concevoir qu'on donne la mort en spectacle, très honnêtement, et la souffrance en l'occurrence. Et donc, à travers quelques formules bien trouvées, Francis Cabrel porte un message analogue.
C'est parfait pour accueillir votre invité Boris Cyrulnik, qui lui aussi, je crois, n'est pas fan de corrida. Dites-nous tout d'abord pourquoi vous avez souhaité l'inviter avant de l'accueillir.
Ah, parce que j'ai beaucoup d'estime, d'admiration, on se croise le plus souvent possible, et surtout parce que je trouve que c'est un, il a souffert le martyr, oui. Boris Cyrulnik.
On connaît son histoire, et il l'a raconté.
On connaît, voilà, admirablement bien. Et c'est un révolté dans la bienveillance. Et moi, j'ai des leçons à prendre de cette démarche. Vous savez, quand on est révolté, insurgé, on a le verbe fort, on montre du doigt. Peut-être y a-t-il d'autres moyens. J'ai bien l'impression que Boris a trouvé ces moyens-là.
Bonjour, Boris Cyrulnik.
Bonjour, il va falloir essayer de trouver le moyen, alors.
Oui, vous allez peut-être nous aider, vous qui, c'est vrai, avez développé ce concept de résilience, d'ailleurs. Et ça va nous permettre de faire le lien quand même, notamment en observant les animaux, c'est ça ?
Absolument, les théories de l'attachement sont parties des observations animales. Et le fait qu'au début c'était très critiqué parce qu'on disait mais l'homme appartient pas à la nature, l'homme est au-dessus de la nature et les animaux n'ont rien à nous apprendre. Donc il y a 40-50 ans on a été critiqué. Or actuellement, grâce au virus, ce qu'on découvre, c'est que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il est dans la nature, et si on maltraite les animaux, on sera maltraité avec eux. Si on les rend malades, on sera malade avec eux.
Et ça, on l'avait finalement totalement oublié, occulté.
Non, ça fait partie de la culture occidentale où l'homme est au-dessus de la nature. On nous apprenait que puisqu'on parle, on a une âme, donc les animaux sont au-dessous de nous et on peut les massacrer, les élever, les torturer. On les torture pas, c'est des machines. Donc on a vécu dans cette représentation du monde vivant, nous exclus de la nature et les animaux machines à qui on pouvait faire ce qu'on voulait. Eh bien, on découvre maintenant que c'est étonnamment faux et que si on torture, si on rend malade les animaux, on sera malade avec eux.
Comment vous imaginez, j'allais dire l'après-demain, ou plutôt l'après-demain, puisqu'après-demain on sera lundi, ce sera le 11 mai, comment vous imaginez la sortie de ce confinement qui a dû avoir des conséquences beaucoup plus lourdes qu'on l'imagine pour les gens, pour les Français notamment ?
Eh bien, dans l'histoire humaine, après chaque période de chaos, il a fallu reprendre une autre route. Si on reprend la même route, c'est-à-dire si on fait des élevages intensifs qui coûtent terriblement cher en foin, en transport d'avion, en transport de beefsteak, ça coûte terriblement cher, eh bien, dans 2 ans ou dans 1 an, on aura un autre virus. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, il faudra le refaire, sauf que humainement et économiquement, ça va nous coûter terriblement cher et ça va nous ruiner.
Mais prendre une autre route, j'imagine, alors là, peut-être qu'Alain Bougain-Dubourg va le dire, pour prendre une autre route, il va falloir se heurter à des lobbies considérables. Et puis notamment à une certaine idée du libéralisme.
Oui, mais c'est
absolument
ce qu'on évoquait.
Alain Bougain-Dubourg, on vous écoute, je vous écoute.
Non, allez-y, Alain. Gentil, Boris. Non, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le libre échange doit faire place au juste échange. Et du reste, moi, je travaille avec la FNSEA, les chambres d'agriculture, etc. Et je vois bien qu'ils sont quand même attentifs, pas forcément fermés. Mais il va falloir, par exemple, à partir du moment où on crée une agriculture à dimension humaine et de qualité, de proximité, etc., on refuse les marchés internationaux qui nous permettent d'importer des animaux élevés dans des conditions honteuses, scandaleuses, bourrées d'un cortège chimique, que sais-je encore. Et du reste, il faudra le faire, ne serait-ce que pour préserver nos agriculteurs.
Oui, mais en même temps, on doit signer des accords internationaux. On l'a vu notamment avec le Canada.
Eh ben non, justement, c'est fini, ça. Ces accords ne peuvent pas tout englober. On a, vous savez, il y a des bases éthiques fondamentales auxquelles on doit s'attacher. Et le commerce doit intégrer cette notion fondamentale. Moi, j'ai constaté pendant le confinement combien les Français se sont retournés vers la production de proximité. Mmh. Ont rendu hommage aux agriculteurs qui travaillaient correctement. Au passage, dans le même temps, on autorisait l'épandage de produits chimiques en bordure des maisons, alors que vous rappelez, il y avait la fameuse affaire des 10 mètres, 15 mètres, etc. Allez hop, roule ma poule, on a effacé tout ça et on pouvait y aller au prétexte qu'il n'y avait pas de gens dans les champs. Non, mais c'est là où il va falloir quand même être un peu cohérent.
Mais, parce que, et là je voudrais retrouver Boris Cyrulnik, au nom de la nécessité de la reprise économique, on va peut-être dire que, écoutez, les préoccupations de cet ordre ou les préoccupations environnementales sont pas prioritaires.
Alors, ça a déjà été fait, et après chaque épidémie de peste, peste bubonnaire, peste choléra, ou peste noire au XVIIe siècle, ça a déjà été fait, et au nom de l'argent, au nom du gain, on a répété les épidémies. S'il y a eu toute une série d'épidémies de peste noire au XVIIe siècle, c'était pour gagner plus d'argent grâce à la route de la soie. La route de la soie était une merveille. Et dès l'instant où on a fait des relais à Antioche, en Syrie, on a fait des stocks alimentaires. Et dans ce cas-là, on a transporté les bacilles de la peste. Et pour gagner de l'argent, les commerçants trichaient et ne respectaient pas les quarantaines. En 2 ans, 1 Européen sur 2 a été tué. Alors, ça a déjà été fait souvent, on sait ce que ça donne. Alors, effectivement, il y a des gens qui veulent recommencer comme avant et qui veulent même augmenter pour rattraper le retard.
Oui.
Parfait, on remet en place les conditions d'une nouvelle zoonose.
Ça veut dire qu'il faudra faire preuve de résilience.
Non, la résilience, là on est dans la résistance.
Ouais.
On affronte un problème, ouais. On est dans la synchronie. Le problème est là, face à face, on l'affronte. La résilience, la définition, c'est la reprise d'un nouveau développement. Alors là, on sera dans la résilience si nos débats nous permettent, il y aura des débats, bien sûr, il y a des gens qui vont vouloir gagner de l'argent. D'ailleurs, on peut très bien vivre, les économistes auront sûrement des idées à nous proposer pour gagner de l'argent autrement que par cette mondialisation excessive et par cet élevage catastrophique. Parce que, comme le disait Alain Bougain-Dubourg tout à l'heure, pour gagner de l'argent, on a bourré les animaux d'antibiotiques, on a fait une surpopulation, on les a stressés. Le résultat, c'est que quand on mange ces animaux, on diminue la réactivité aux antibiotiques. Les antibiotiques ne marchent plus. Donc on a tout un système qui s'est mis en place au nom du profit. On peut très bien faire profit, l'économie devra bien redémarrer en effet, mais on peut faire profit. Autrement, je pense que maintenant, notre nouveau jardin, ça sera, j'espère, l'Europe.
Alors, Alain Bougain-Dubourg, l'Europe peut prendre la main, vous pensez, sur ces questions, notamment qui concernent l'élevage et l'agriculture, ouais, en général ?
Alors la grande question qui se pose en pareil cas, c'est de se dire, mais si au fond nous faisons nous-mêmes des efforts au niveau national, régional, national, voire au niveau européen, et que les autres ne font rien, bah finalement on va pas changer la planète.
Ça sert à rien, c'est ça.
Je crois dans la valeur d'exemple. Je crois dans le... Vous savez, c'est Pierre Dac, je crois, qui disait « L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne ». Oui, on peut changer nos modèles. Voilà, on peut changer nos modèles. Et je crois que les consommateurs ont un pouvoir potentiel colossal. Il y a l'urne pour les votes, mais davantage peut-être le potentiel d'achat. Voyez-vous, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, je me souviens, quand on a voulu revaloriser l'agriculture bio, on nous a taxés de bobos parisiens avec des produits trop chers, inaccessibles. Vous allez maintenant dans toutes les grandes surfaces, vous avez des gondoles, des alignements de produits bio qui conviennent à tout le monde. Alors, c'est vrai que ça coûte parfois un peu plus cher, mais pas toujours, et comme on consomme moins, mais de qualité, eh ben on s'y retrouve. Et donc, moi,
à condition
je crois
de ne pas acheter du bio qui vient du bout du monde aussi.
On est bien d'accord, mais évidemment. Bon, tout ça, il va falloir l'affiner. Ouais. Et je crois beaucoup que les consommateurs ont le pouvoir de changer la société.
Boris Cyrulnik, justement, pour rebondir, est-ce que vous pensez que cette période peut être l'occasion de changer profondément la société dans laquelle nous vivons? C'est vrai que très vite, par exemple, Emmanuel Macron, je crois que lors de sa première intervention, il a dit qu'après, ce ne serait pas la même chose. Mais est-ce que face au pouvoir,
oui,
notamment... Ah ça, je ne sais pas. Mais et notamment face au pouvoir industriel, au pouvoir des lobbies, ça sera possible?
C'est déjà arrivé. Après chaque guerre, il y a une véritable révolution culturelle. Or là, il y a eu une guerre. Le virus voulait notre mort. Il a tué beaucoup de monde, et si on s'était pas confiné, il en aurait tué encore plus. Donc c'est déjà arrivé. Et effectivement, les puissants sont souvent obligés de s'adapter. Par exemple, après la peste de 1348, les bateaux sont arrivés à Marseille avec la peste à bord, pour gagner de l'argent, parce qu'il y avait la foire de la soie à Beaucaire, les commerçants n'ont pas respecté la quarantaine, et deux ans après, un Européen sur deux était mort. Mais beaucoup de paysans étaient morts, et avant, le servage existait, c'est-à-dire que le seigneur vendait la terre et les hommes qui étaient dessus. Après après la peste, il y avait tellement peu de paysans que finalement, il a fallu les séduire pour qu'ils se remettent
au travail. Le rapport de force a changé.
Le rapport de force a changé et le servage a disparu sans conflit majeur, parce que c'était une adaptation à une nouvelle manière de vivre. Donc j'espère que ça peut se passer, ça s'est déjà passé.
La société de demain ne sera peut-être pas celle d'avant le virus. Merci en tout cas, c'était passionnant de vous avoir avec nous pour ce journal inattendu d'Alain Bougrain-Dubourg. Merci beaucoup Boris Cyrulnik. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, on retrouve Alain Bougrain-Dubourg. On a marché sur la terre, ce journal d'un militant. Vous le trouverez dès lundi puisque votre librairie sera de nouveau ouverte. À tout de suite.
Vous êtes artiste.fr.
Le journal inattendu d'Alain Bougrain-Dubourg avec Vincent Parisot sur RTL.
Rêver, un impossible rêve.
Ben Manson, c'est votre choix musical, Alain Bougrain-Dubourg. C'est la quête, oui. Dans l'homme de la mancha.
C'est un petit coucou à l'égard de Jean et cette chanson qui est si belle et qu'elle chante admirablement et qui nous entraîne vers l'inaccessible étoile. Et pourtant, il faut se battre, il faut lutter sans armes ni armure. Et ça, c'est admirable, quoi.
Elle le chante si bien et ça vous touche, d'autant que vous le sous-entendiez, vous le rappeliez, Jean Manson, elle occupe quand même une place importante dans votre vie parce qu'elle est la mère de votre fille.
C'est la maman de ma fille.
La maman de Marianne. Voilà. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que vous êtes mariée avec la nature, avec les animaux. Mais bon, que ce soit Jane Manson ou Brigitte Bardot, excusez-moi d'en parler, mais ce sont des sex symboles qui sont tombés dans vos bras.
C'est moi qui suis tombé dans le leur. Ne versez pas les rôles.
Non, c'est vrai. Bon. Tiens, allez, un petit extrait d'un film qui a dû beaucoup compter pour vous. C'est Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver.
Docteur Leakey, je suis Diane Fossé, je vous ai écrit.
Ah, merci mademoiselle.
Fossé.
Nous apprécions toutes les formes de contribution, cela
non,
va
non,
de
non,
soi.
Non, je vous ai écrit pour travailler pour vous en Afrique.
Oh, ne m'en veuillez pas mademoiselle, mais je reçois tellement de lettres de tellement de gens.
Oui, mais moi je vous ai écrit 6 fois à propos des gorilles.
Ah, vous êtes la physique.
Je suis la physiothérapeute. Je travaille avec des enfants handicapés. Je passe un temps fou à établir des relations avec des enfants qui refusent toute approche par principe. C'est vrai que je n'ai aucune formation, mais j'ai l'amour des bêtes, docteur Leakey. Et j'ai déjà fait 2 ans de préparation vétérinaire.
Mademoiselle, je vous sais sincère, mais j'ai bien peur qu'il y ait d'autres considérations. Que vous aimiez les bêtes ne nous suffit pas.
Vous avez déclaré au micro qu'il vous faut quelqu'un et très vite pour faire le recensement des gorilles. Pourquoi pas moi? Je sais compter. 1, 2, 3.
Est-ce que vous vous y voyez? Vivre à la dure en Afrique pendant 6 mois?
Oui.
Je vais y réfléchir.
Gorille dans la brume, évidemment. Sigourney Weaver, c'est un film qui vous a marqué, j'imagine.
Oui, ça m'a marqué d'abord parce que j'ai été chez Diane Fossé au Rwanda, à 3000 mètres d'altitude, dans ce lieu improbable où j'ai envie de dire seule une femme aurait été capable et a été capable de relever le défi de cette cohabitation avec les grands singes et elle les a complètement réhabilités. Puis après, j'ai interviewé Sigourney Weaver en Californie quand le film est sorti et j'avais été très touché par son engagement qui n'était pas fin. Elle incarner cette femme admirable, Diane, qui n'était pas une femme facile, et qui sur le tard...
C'est vrai, elle avait son caractère, Diane Fossé.
Elle avait non seulement son caractère, mais du reste, c'est ce qui lui a valu, et c'est dommage, d'être rejetée par les autorités rwandaises, et alors qu'elle aurait dû être la tour Eiffel du Rwanda par le travail remarquable qu'elle a pu conduire. Ouais. Et donc, vous savez, j'ai fait avec Yann Arthus-Bertrand un bouquin, il y a longtemps, sur des animaux et des femmes. Pourquoi des femmes? Parce qu'on trouve des femmes dans les lieux les plus improbables, les plus extrêmes, dans des conditions insupportables et pas des hommes. Alors, à chaque fois, je leur ai demandé à ces femmes, mais pourquoi vous et pas un homme? Et très pudiquement, elles ont répondu, mais c'est le hasard de la vie. Et puis quand on grattait un peu, c'est en vérité, parce qu'elles donnent la vie et par conséquent qu'elles y sont attachées de toute leur force. Et il est très intéressant de voir que beaucoup de biologistes ont commencé par s'inquiéter et s'intéresser à la condition humaine, aux enfants mal formés, que sais-je encore, et ont étendu leur regard sur l'ensemble du vivant.
Voilà, et évidemment, vous faites référence à Woman, hein, notamment ce film de Yann Arthus
Bertrand. Oui, bien sûr, de Yann. Oui.
Alors, c'est une femme qui était ici même à votre place la semaine dernière, l'humoriste et comédienne Maëla Bédia, et elle avait une question à vous poser, on l'écoute.
Bonjour Alain, c'est Maëla Bédia et j'avais une petite question sur, sur les volatiles. Quoi. J'ai une vraie question en fait. Moi, ma mère, elle avait des perruches quand on était enfant et il y en a une qui était morte et l'autre l'a suivie. Est-ce qu'il y a un truc à dire sur ces oiseaux qui sont en couple et qui sont hyper fidèles? Parce que j'ai lu un article qui disait que apparemment les oiseaux sont très très fidèles, contrairement à DSK.
Alors, oui, d'accord. C'est la fin de la question. Je sais que bon, les oiseaux, vous préférez ouvrir la cage aux oiseaux. Hein, vous n'aimez pas trop les oiseaux en cage.
Bien
sûr. Mais l'histoire des perruches, vous avez une explication?
Alors, pour répondre clairement, il y a certaines espèces dont la fidélité est avérée. Les grues, par exemple, au Japon, incarnent la fidélité, ces grands oiseaux qui se retrouvent. Vous avez les calaos, par exemple, c'est une situation incroyable. Pour nidifier, madame et monsieur vont choisir un creux dans un arbre et ils vont dresser un mur avec juste l'espace suffisant pour que le bec du mâle puisse nourrir la femelle. Oui. Il faut une sacrée confiance pour ça. Oui. Eh bien, ils vont être fidèles toute leur vie. On le voit chez beaucoup d'espèces, les pigeons, etc. Enfin, les colombidés, oui, bien sûr.
Bon, ben voilà. Et puis parfois, chez les humains, parfois, tu dis. vous restez avec nous, Alain Bougrain-Dubourg, parce qu'on a une petite surprise pour vous dans un instant. À tout de suite.
Alain Bougrain-Dubourg est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu d'Alain Bougrain-Dubourg avec Vincent Parisot sur RTL.
Et ce livre, On a marché sur la terre, journal d'un militant que vous allez pouvoir retrouver lundi dans votre librairie, livre signé Alain Bougrain-Dubourg. Alors si on regarde à la date du 17 février, c'est la page 54, vous nous parlez de la journée mondiale du pangolin. Alors évidemment le pangolin, on en parle beaucoup avec le virus, Alain Bougrain-Dubourg. Et le pangolin, vous en avez aussi parlé dans Charlie Hebdo, dans une de vos lettres des animaux aux humains confinés.
Lettre des animaux aux humains confinés. Le pangolin, par Alain Bougrain-Dubourg.
Ça y est, me voilà en haut du podium. Le panda n'a qu'à bien se tenir. C'est moi désormais qui incarne la faune sauvage en péril. J'ai même une
voilà donc lecture d'une de vos lettres qu'on trouve dans Charlie Hebdo sur le pangolin. Alain Bougrain-Dubourg, Pierre Desproges disait le pangolin c'est un artichaut à l'envers avec des pattes.
Oui, tout à fait. Et malheureusement cet animal incarne aujourd'hui la biodiversité à l'agonie. Ouais. Et plus que le panda, c'est l'un des animaux qui est le plus menacé sur la planète.
Et donc on peut lire ces lettres des animaux aux humains confinés dans Charlie Hebdo et on a une invitée surprise. Bonjour Coco.
Bonjour.
Oh la Coco, trop mignon.
La surprise.
Et voilà, la surprise.
C'est adorable.
Ça vous fait plaisir Alain Bougrain-Dubourg?
Ah oui, parce que, écoutez, moi j'adorais Cabu, s'entendait bien, il adorait les animaux. Et j'ai dit à Coco, je trouve qu'elle a la griffe de Cabu. Ouais. Elle a un regard sur la vie. Et je crois qu'elle a une passion pour ses chats, pour la nature, les animaux. Ouais. Et tant mieux que le dessin véhicule si joliment, avec tant de talent et des sensibilités, la cause que nous tentons de défendre les uns et les autres.
C'est vrai que vous publiez dans Charlie Coco ces lettres des animaux aux humains confinés d'Alain Bougrain-Dubourg. Ça veut dire que Charlie est devenu un ardent défenseur des animaux, ou l'était déjà d'ailleurs peut-être?
Non, Charlie l'était déjà. Depuis longtemps, il y a la chronique de Luce Lapin qui défend la cause animale dans le journal. Et puis, on a aussi l'appel des coquelicots de Fabrice Nicolino dernièrement pour s'opposer aux pesticides de synthèse. Donc oui, enfin, l'écologie, ça a toujours été un combat dans Charlie, et la défense et le respect des animaux également.
Et faire appel à Alain Bougrain-Dubourg, c'était une évidence pour vous ?
Pour moi, naturel, puisque moi, déjà, pour l'histoire, je regardais Alain à la télé.
Comme moi, on doit être de la même génération. Dans les années 70, effectivement, on regardait déjà Alain Bougrain-Dubourg à la télé. Dites-moi, on a peu de temps, Coco, comment va le journal en cette période? J'imagine que ça pas dû, que le confinement a dû avoir un impact quand même, non?
Ben écoutez, j'étais un peu inquiète au début, c'est vrai, mais en fait, le journal se vend plutôt bien et on alimente aussi le site internet charliehebdo.fr tous les jours d'articles et de dessins et des fameuses lettres des animaux aux humains confinés de Alain qui le fait merveilleusement bien. Le pangolin, le putois, le hérisson, le busard, des lettres qui servent aussi à sensibiliser à la biodiversité.
Ces lettres des animaux aux humains confinés, vous y prenez plaisir, j'imagine, Alain.
Ah, c'est merveilleux. Et puis, je dois dire que l'équipe de Charlie, je les connais pas mal. Ils sont adorables. Et c'est vrai que depuis, toujours avec Luce Lapin, Nicolino et autres, il y a une culture nature, j'ai envie de dire, qui transpire dans les pages de Charlie, évidemment.
Merci Coco. Merci Charlie, évidemment. Et puis, merci Alain Bougrain-Dubourg. C'est vrai qu'on aurait pu parler, et Coco en a souligné de vos débuts, parce qu'on vous a tous suivi dans les années 70 et même 80, c'est ça? Ça avait commencé au début des années 70.
Oui, bon, on s'en fout du passé. Ce qui est important, c'est l'avenir.
Et l'avenir, c'est dès lundi en librairie. On a marché sur la terre, ce journal d'un militant aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg. Je vous souhaite un très bon samedi après-midi à l'antenne d'RTL. Dans un instant, ce sera Confidentiel avec Roger Moore.
Aujourd'hui,